Chapitre 5. Au poste de police, une jeune agente au sourire sincère gratta sous les ongles de Laura, lui passa un coton-tige à l'intérieur de la joue et lui brossa tout doucement les cheveux, avec beaucoup de délicatesse. Laura trouva la sensation très apaisante, et cela lui rappela si fort son enfance qu'elle en eut les larmes aux yeux. Dans sa tête, la voix de Didre résonna de nouveau.
« Ton problème, Laura, c'est que tu n'as aucun amour-propre. »
Didre, la maigrichonne au visage dur entre les bras de qui le père de Laura avait tenté de trouver du réconfort lorsque sa femme l'avait quitté, s'était fait une spécialité d'égrener sur commande la litanie des problèmes de sa belle-fille. Le manque d'amour-propre arrivait tout en haut de sa liste.
« Tu n'as pas assez d'estime de toi, Laura. C'est ça ton plus gros problème. Si tu avais un tant soit peu de dignité, tu ne sauterais pas dans le lit de tous ceux qui te témoignent un minimum d'attention. »
Quelques jours après son 13e anniversaire, Laura s'était rendue à une fête chez une amie. Lorsqu'elle était rentrée sur la pointe des pieds à 6h du matin, son père l'attendait. Il l'avait attrapée par les épaules et l'avait secouée comme un prunier.
« Où tu étais ? J'étais mort d'inquiétude. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Plus jamais tu ne me refais un coup pareil, mon poussin. C'est compris ?»
Et il l'avait serrée contre lui. La tête appuyée contre son torse, Laura avait eu le sentiment d'être à nouveau une enfant, d'être à nouveau normale.
« Pardon, papa. »
avait-elle murmuré.
« Te demande pardon. »«
Tu penses bien qu'elle n'est pas désolée une seule seconde ?»
tonna Didre une heure plus tard, alors qu'ils étaient tous assis autour de la table pour le petit déjeuner.
« Mais regarde-la, Philippe. On dirait un gosse devant le sapin de Noël. »
Laura lui fit une grimace par-dessus son bol de céréales.
« Ton petit air satisfait, là !»
cracha Didre avec dégoût.
« Tu ne vois pas son petit air satisfait, Phil. Tu étais où, hier soir ?»
Plus tard, elle entendit son père et sa belle-mère se disputer.
« Son problème, c'est qu'elle ne se respecte pas, » disait Didre. « Je te le dis, Phil, si ça continue comme ça, elle va se retrouver enceinte avant ses 15 ans. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. »«
Mais ce n'est pas sa faute, Didre, »
répondit son père d'une voix geignarde.
« Tu sais bien que ce n'est pas sa faute. »
« Oh, ce n'est pas sa faute, mais bien sûr, rien n'est jamais sa faute avec toi. »
Ce soir-là, lorsque Didre monta prévenir Laura que le dîner était prêt, elle lui demanda « Tu as pris tes précautions au moins ? Ne me dis pas que tu as été assez bête pour le faire sans préservatif. »
Laura était allongée sur son lit, les yeux rivés au plafond. Sans changer de position, elle attrapa une brosse à cheveux sur sa table de nuit et la lança en direction de sa belle-mère.
« Va te faire foutre, Didre. » « De mieux en mieux, »
commenta Didre.
« Mais j'imagine que ce n'est pas ta faute non plus si tu es aussi vulgaire. »
Elle se retourna pour partir, mais se ravisa au dernier moment.
« Tu sais ce que c'est ton problème, Laura ? C'est que tu n'as aucun amour-propre. »
Le manque d'amour-propre était effectivement un des problèmes de Laura, mais c'était loin d'être le seul. Dans la liste, on pouvait aussi retrouver, entre autres, hypersexualité, trouble du contrôle des impulsions, comportement social inapproprié, accès de colère, trou de mémoire, ainsi qu'un boitement assez prononcé.
« Et voilà !» annonça l'agent de police en rangeant son matériel. « C'est terminé !»
Voyant que Laura pleurait, elle lui serra délicatement la main et ajouta
« Tout va bien se passer, ma chérie. »«
Je voudrais appeler ma mère, »
dit Laura.
« Est-ce que c'est possible ?»
La policière accepta. Et Laura composa le numéro, mais sa mère ne répondit pas.
« Est-ce que j'ai droit à un deuxième appel ?»
L'agente commença par secouer la tête, puis elle vérifia que le couloir était vide et elle acquiesça.
« D'accord, mais fais vite !»
Laura appela ensuite son père. Après plusieurs sonneries, on décrocha et Laura sentit l'espoir lui gonfler la poitrine. Malheureusement, son enthousiasme retomba dès qu'elle reconnut la voix de Didre à l'autre bout du fil.
Allô ? Allô, qui est à l'appareil ?
Laura raccrocha et haussa les épaules lorsqu'elle croisa le regard interrogateur de l'agente.
J'ai dû me tromper de numéro, mentit-elle.
Après cela,
L'agente escorta Laura jusqu'à une pièce minuscule et étouffante, au centre de laquelle trônait une table. Elle lui donna un verre d'eau et lui promit que quelqu'un allait lui apporter un thé, qui ne vint jamais. Dans la petite cellule surchauffée flottait une odeur chimique étrange. Laura avait tout le corps qui la démangeait et l'impression que son cerveau épuisé tournait au ralenti. Elle croisa les bras sur la table, posa la tête dessus et essaya de dormir. Mais dans le bruit ambiant, elle entendit des voix. Sa mère, Didre, Daniel. Elle déglutit et perçut dans sa gorge le goût du métal et de la pourriture.
« Qu'est-ce qu'on attend ? »
finit-elle par demander à l'agente, qui haussa les épaules. « L'avocat commis d'office, je crois. Parfois, ça peut prendre du temps. » Laura pensa aux pizzas et aux plats surgelés, pour lesquels elle avait dépensé ses 10 dernières livres, et qui décongelaient tranquillement sur le plan de travail de sa cuisine. Après une attente qui parut interminable à Laura, mais qui n'excéda probablement pas 10 minutes, les deux inspecteurs qui l'avaient amenée au poste de police pénétrèrent dans la pièce, sans avocat.
« Vous pensez que ça va prendre combien de temps ?»
demanda-t-elle.
« J'ai une grosse journée de boulot demain. Je suis explosée. »
Crâne d'œuf la dévisagea longuement, puis il poussa un soupir, comme s'il était déçu de son attitude.
« Ça pourrait durer un bon moment, Laura, » répondit-il. « C'est... disons que ça ne se présente pas très bien pour vous. Surtout que ce n'est pas la première fois. »
« Qu'est-ce que vous racontez, pas la première fois ? Je passe pas mon temps à poignarder des gens, je... »«
Vous avez poignardé Warren Lacey, » intervint Monosourcil.
« Je lui ai planté une fourchette dans la main. Ça a quand même rien à voir, merde !»
s'exclama Laura. Et elle se mit à rire, parce que ça n'avait effectivement rien à voir et que chercher à comparer les deux était ridicule, mais elle n'avait pas vraiment envie de rire. Elle avait surtout envie de pleurer.
« Je constate que ça vous amuse beaucoup, Laura, » commenta l'inspectrice. « Intéressant. Pourtant, je pense qu'à votre place, peu de gens trouveraient la situation aussi drôle. »« Ça m'amuse pas, c'est... »
Laura poussa un soupir de frustration avant de reprendre.
« Parfois, j'arrive pas à adopter une attitude qui corresponde à mon état émotionnel. Et là, en l'occurrence, je vous jure que je trouve pas ça drôle. »
dit-elle, sans parvenir à se départir de son sourire. Monosourcil lui sourit à son tour. Un rictus effrayant. Elle s'apprêta à ajouter quelque chose, mais fut interrompue par l'entrée de l'avocat commis d'office promis. Un homme au visage gris, l'air épuisé, qui empestait le café et le manque d'assurance. Une fois les présentations faites et tout le monde installé autour de la table, Monosourcil reprit le fil de l'interrogatoire. Nous parlions donc de la difficulté que vous éprouviez à adopter une attitude qui corresponde à votre état émotionnel. « C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?» Laura hocha la tête en signe d'acquiescement. « Vous devez répondre par oui ou par non, Laura, pour l'enregistrement. » Laura marmonna un petit oui. « Est-il correct d'affirmer que vous avez parfois du mal à vous contrôler ? Que vous êtes sujette à des crises sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle ?»«
Oui. »
« Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre accident, Laura ?» demanda Monosourcil d'une voix mielleuse qui se voulait rassurante. Laura se coinça les mains sous les cuisses, de peur de la gifler. « Pouvez-vous nous raconter les effets que cet accident a eu sur vous ? Physiquement, j'entends. » Laura se tourna vers l'avocat en quête d'un quelconque soutien, mais comme il restait impassible, elle soupira et se mit à énumérer ses blessures d'un ton monocorde. «
Fracture du crâne, fracture du bassin, fracture ouverte du fémur distal, coupure, hématome. » J'ai passé 12 jours dans le coma et 3 mois à l'hôpital.
Vous avez également subi un important traumatisme crânien, non ? Pourriez-vous nous en dire plus ? Laura soupira de nouveau et leva les yeux au ciel.
Vous pouvez pas faire une recherche Google ?
S'emporta-t-elle.
Sans déconner, c'est quoi votre problème ? Pourquoi vous voulez que je vous parle d'un truc qui m'est arrivé quand j'avais 10 ans ? Moi, je crois surtout que vous avez rien contre moi. Que dalle ! Alors maintenant, j'aimerais que vous me laissiez rentrer chez moi.
Les deux inspecteurs l'observèrent, visiblement peu impressionnés par sa diatribe. « Pouvez-vous nous détailler les conséquences de votre traumatisme crânien ?» demanda Crâne d'œuf d'un ton détaché qui ne fit que décupler la rage que ressentait Laura.
« Bon, donc, j'ai eu un traumatisme crânien, et ça a affecté temporairement mon usage de la parole, mais aussi mes souvenirs. »«
Vos souvenirs ?» répéta Monosourcil.
« Oui, enfin, ma mémoire. »
Mono Sourcil resta silencieuse quelques secondes. Laura en conclut qu'elle cherchait à ménager son effet, avant de reprendre. Mais ce traumatisme a aussi eu des conséquences émotionnelles et comportementales. Je me trompe ?
Laura se mordit la lèvre.
J'ai eu des problèmes de contrôle de la colère quand j'étais plus jeune, dit-elle en regardant l'inspectrice droit dans les yeux, comme pour la mettre au défi de la traiter de menteuse. Je suis dépressive et je souffre d'une désinhibition qui peut se manifester par des propos déplacés ou blessants, récita-t-elle, comme quand je vous ai dit que vous ressembliez à l'oncle fétide.
Mono Sourcil éluda d'un sourire et poursuivit. Vous présentez un trouble du contrôle des impulsions, n'est-ce pas, Laura ? Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous en prendre physiquement aux gens, de les agresser. C'est bien ça, non ?
Et
donc, sur la péniche vendredi soir, quand M. Sutherland vous a rejeté, quand il s'est montré froid et insultant avec vous, vous vous êtes emporté, n'est-ce pas ? Vous l'avez attaqué. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous l'aviez frappé. Vous vouliez vraiment lui faire mal, pas vrai ?
Je voulais lui arracher la gorge,
s'entendit dire Laura. À côté d'elle, l'avocat frémit. Bingo. Les policiers n'avaient effectivement aucun élément contre elle, que dalle. Mais ce n'était pas grave, puisqu'ils l'avaient, elle. Pas besoin de flagrant délit, pas besoin d'armes du crime. Ils avaient un mobile et ils avaient Laura, sur qui ils pouvaient compter tôt ou tard pour dire quelque chose de profondément stupide.